journal d'Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Emmanuel Macron annonce une refondation pénale. Il dévoile une réforme qui vise à rendre les peines plus efficaces et aussi à lutter contre la surpopulation carcérale. Précision de Sarah Guibaudeau dans un instant. Et de son côté, le Premier ministre lance le chantier de la réforme de la Constitution qui devrait comporter notamment une réduction importante du nombre de parlementaires. Un recours au référendum pour la faire adopter n'est pas exclu. Analyse politique de Stéphane Robert. Un mois après la précédente grève qui avait conduit Air France à annuler un quart de ses vols, syndicat de la compagnie appelle à nouveau à un arrêt de travail pour le 23 mars prochain, précision d'Hakim Kasmi. Après Canal+, le groupe Free s'apprête à couper le signal de TF1 depuis que les clients de CanalSat n'ont plus accès à la chaîne. Les audiences de TF1 sont à la baisse, explication d'Abdelhak El Idrissi. L'étranger, l'Italie d'abord avec la lutte engagée entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue qui revendique chacun le pouvoir tout en excluant une alliance eurosceptique entre eux. On fera le point avec Mathilde Inverti. Le nettoyage ethnique des musulmans Rohingyas qui se poursuit en Birmanie avec une nouvelle alerte ce matin du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies dont nous rendra compte Nadine Epstein. Et puis les deux Corées qui conviennent à l'instant de tenir un sommet à leurs frontières. Ce sera la fin du mois d'avril et d'ouvrir aussi une ligne de communication d'urgence entre les deux dirigeants donc du Nord et du Sud. L'Assemblée nationale populaire chinoise examine en ce moment même les amendements à la Constitution qui devrait permettre au président Xi Jinping de se maintenir au pouvoir sans limite de temps. On en parle avec l'invité de la séquence interview, Jean-Luc Domenac, spécialiste de la Chine. Et dans la dernière partie de la Grande Table, Olivier Gesbert.
On est spécial Isabelle Huppert aujourd'hui, on est ensemble jusqu'à 13h30. On sera rejoint par la créatrice de mode Agnès B, qui a d'ailleurs présenté hier sa collection prêt-à-porter automne-hiver 2018-2019. Il ne vous aura pas échappé non plus qu'elle a dîné à l'Élysée, entourée de beaucoup d'autres créateurs. Mais au-delà de ça, nous allons parler ensemble photographie, art, mode et puis encore aussi beaucoup de cinéma. Voilà.
Le rythme des réformes toujours aussi soutenu, de grands chantiers qui s'ouvrent donc aujourd'hui à nouveau. Le chef de l'État doit annoncer tout à l'heure dans un déplacement à Agen les principes d'une refondation pénale afin de rendre, dit-il, les peines plus efficaces tout en luttant contre la surpopulation carcérale. On va donc y revenir dans un instant, mais on commence par ce chantier de la grande réforme de la Constitution qui, lui, est lancé ce matin par le Premier ministre Édouard Philippe, qui entame une série de rencontres avec les groupes parlementaires et un recours au référendum pour faire adopter le texte n'est pas exclu avant l'été ou après l'été. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour Antoine.
On va bien sûr parler du fond, en particulier de cette forte réduction prévue du nombre de parlementaires, mais peut-être un mot de la méthode d'abord. Il y a une dizaine de jours qui vont venir, les patrons des groupes, les présidents de l'Assemblée et du Sénat vont défiler donc chez le Premier ministre, présenter les chantiers de la réforme que l'exécutif souhaite donc présenter en Conseil des ministres, peut-être vers la mi-avril après passage au Conseil d'État.
Oui, c'est ça. Édouard Philippe entame ce qu'il appelle des consultations pour une quinzaine de jours. Il va recevoir les présidents de groupe cette semaine. La semaine prochaine, le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, et le président du Sénat, Gérard Larcher. En réalité, il s'agit d'exposer les différentes dispositions de cette réforme, de mettre les choses sur la table et de jauger comment elles sont perçues au sein des deux assemblées. C'est évidemment au Sénat, où la droite reste majoritaire, que vont s'exprimer les plus fortes réticences. Le Sénat, où l'on prend cette révision constitutionnelle très au sérieux, à tel point que Gérard Larcher organise en cette fin d'après-midi une réunion de travail transpartisane où il a invité Jack Lang et Nicolas Sarkozy. Ça ressemble fort à une réunion d'état-major avant la bataille.
Voilà, on va parler des réticences du Sénat dans un petit instant, mais bien sûr d'abord un mot sur le fond de cette réforme. Qu'y a-t-il dans ces chantiers du Premier ministre ?
Déjà, il faut dire que toutes les révisions envisagées par Emmanuel Macron ne nécessitent pas forcément de réformer la Constitution. Par exemple, pour réduire le nombre de parlementaires, dans le projet, on est sur une réduction d'environ un tiers. De 577 députés aujourd'hui, on passerait à environ 400. Et de 348 sénateurs, on arriverait à un peu plus de 200. Eh bien, il suffit d'une loi organique, c'est-à-dire d'un texte voté à l'identique à l'Assemblée et au Sénat. Pas besoin de changer la Constitution. En revanche, pour limiter les mandats dans le temps, à savoir 3 mandats consécutifs au maximum selon le projet d'Emmanuel Macron, eh bien là, il faut une révision constitutionnelle. Alors, qu'est-ce qui sera dans la réforme constitutionnelle en elle-même? Qu'est-ce qui sera dans la loi organique? Qu'est-ce qui relèvera d'une loi ordinaire? Pour l'instant, on ne le sait pas. On aura sans doute un panachage des différentes mesures selon les outils à disposition. Par ailleurs, le projet prévoit également d'instaurer une dose de proportionnelle. C'est-à-dire qu'on élit un certain nombre de parlementaires qui sont inscrits sur une liste et qui ne sont pas rattachés à une circonscription. Alors combien? 10, 15, 20, peut-être même 25%. Là encore, pour le moment, on ne sait pas ce qui sera retenu. Mais globalement, si vous voulez, pour comprendre la logique de cette réforme, si vous réduisez le nombre de parlementaires, que vous en faites élire un certain nombre à la proportionnelle et que vous limitez leur mandat dans le temps, d'une part, vous agrandissez considérablement les circonscriptions. Pour les députés, par exemple, on va passer de 577 circonscriptions aujourd'hui à 300, 350 environ. Dans ces conditions, il est plus difficile pour un élu de fidéliser son territoire. D'autre part, vous empêchez qu'il s'implante durablement. Pour le dire autrement, vous limitez le pouvoir local de ces élus et la constitution de petits potentats locaux. Ça permettra qu'ils soient beaucoup plus efficaces dans leur travail législatif à Paris, selon Emmanuel Macron. Oui, mais on va les déconnecter de la réalité et des territoires, rétorque l'opposition à droite, et on va en faire des parlementaires godillots, en ce sens qu'ils devront leur élection essentiellement à l'investiture délivrée par la formation politique à laquelle ils appartiennent. Vous voyez donc qu'on est là dans une volonté de fracturer un peu plus encore le paysage politique tel qu'il était organisé jusqu'ici. C'est là où on peut voir, où certains peuvent voir en tout cas, un combat du nouveau monde contre l'ancien monde.
Voilà, il n'y aura plus des potentats nationaux, donc si je comprends bien. En tout cas, politiquement, il y a des sénateurs qui risquent de s'opposer, vous le disiez, référendum qui pourrait être nécessaire, et le président du groupe LR au Sénat, qui s'appelle Bruno Retailleau, qui appelle l'exécutif à écouter le Sénat. Écoutez maintenant le vice-président du groupe, Damien Abad, qui dénonçait ce matin ce projet présidentiel, c'était sur Sud Radio.
Ce qui se passe malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale est devenue une chambre d'enregistrement. Avec Emmanuel Macron, on a l'impression que c'est comme un conseil d'administration d'une entreprise. Il faut que ça aille le plus vite possible, qu'il y ait le moins de débats, et que finalement, on dit « circuler, il n'y a rien à voir ». Et c'est ce qui est en train de se passer sur la réforme institutionnelle. Et on dit « si les institutions ne sont pas à la botte du gouvernement, alors on passera par le référendum ». On est en train de déstabiliser les institutions de la Ve République. Et on est en train de museler l'Assemblée nationale, qui devient une chambre d'enregistrement. C'est ça la réalité. Pourquoi ? Parce qu'on veut limiter et réduire le droit d'amendement des députés. Au nom d'une vitesse du débat. Sauf que le débat public, il a besoin de lieux. Et l'Assemblée nationale en est un.
Damien Abad avec Patrick Roger, Stéphane Robert, une dernière question. Comment se présente politiquement l'adoption de ce texte de réforme constitutionnelle ?
Eh bien, ça n'est pas simple. Soit Emmanuel Macron trouve un accord avec le Sénat, et donc avec la majorité de droite, et il peut dès lors réunir le Congrès, où il lui faut une majorité de 3/5 des parlementaires, mais vous voyez que ça s'annonce quand même difficile. Il peut aussi décider de s'adresser directement aux Français par la voie du référendum. Mais sur quelles questions ? Alors pour l'instant, on ne le sait pas. Et puis, on sait aussi que c'est extrêmement risqué, étant donné qu'à travers un référendum, on ne répond jamais, les électeurs ne répondent jamais à la question posée. Souvenez-vous de De Gaulle en 69, on sait ce qu'il en a été. Renzi en Italie également, en 2016, c'est là-dessus qu'il a chuté sur le référendum qu'il avait organisé. Alors, pour l'instant, le gouvernement et Emmanuel Macron brandissent cette question du référendum comme une menace, mais on ne sait pas si c'est une menace ou s'ils ont vraiment l'intention d'utiliser.
Et ça serait quand ?
Alors ça, on ne sait pas. Soit avant l'été, soit après l'été. Pour l'instant, rien n'est fixé.
Merci beaucoup, Stéphane Robert, pour l'ensemble de cette présentation. Emmanuel Macron, qui est sur un autre front aujourd'hui, puisqu'il va annoncer une refondation des peines, discours devant l'École nationale d'administration pénitentiaire, où il se rend avec la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Il pourrait notamment écarter le choix de la prison pour les peines les plus courtes, élargir l'éventail des autres peines, les bracelets électroniques, travaux d'intérêt général par exemple, avec des formules de probation. On est en ligne avec Sarah Guibaudeau qui est en direct avec nous depuis Agen. Bonjour.
Bonjour.
Quel est donc l'esprit général déjà de cette réforme, refondation des peines ?
Des peines effectives, mais des peines utiles, c'est la philosophie générale. Pendant la campagne, le candidat Emmanuel Macron avait lancé à Marine Le Pen « Avec moi, toute peine prononcée sera exécutée ». La loi qui permet depuis 2009 d'aménager, donc souvent d'éviter la prison pour les condamnations jusqu'à 2 ans ferme, devrait donc être remise en cause. Pour l'Élysée, ce dispositif est mal compris puisque la peine est transformée par le juge d'application des peines après le procès. Pour autant, Emmanuel Macron estime que la prison ne doit pas être la règle. Il s'agit de développer ce qu'on appelle encore les peines alternatives. Bracelets électroniques, semi-liberté, travaux d'intérêt général. Il est même envisagé de limiter par la loi le recours aux courtes peines d'emprisonnement. D'aucune utilité en termes de réinsertion, voire contre-productive. Ce constat est assez partagé. Un rapport remis à la garde des Sceaux dans le cadre des chantiers de la justice préconise de supprimer les peines d'emprisonnement inférieur ou égal à 1 mois et de privilégier les placements extérieurs ou sous bracelet électronique pour les peines inférieures ou égales à 6 mois. C'est la voie qu'ont choisi nos voisins allemands et qui pourrait inspirer le président de la République.
Merci beaucoup Sarah Guibaudeau donc pour avoir les principaux points de cette réforme. On doit être en ligne dans quelques instants, en tout cas avec Dominique Raimbourg que nous essayons de joindre, député socialiste de Loire-Atlantique et qui fut ancien président de la commission des lois pour parler de cette refondation des peines. Dominique Raimbourg, est-ce que vous m'entendez ?
Oui, je vous entends.
Bonjour, monsieur. On vous rattrape un peu au vol, excusez-nous. Peut-être un mot de commentaire général sur la philosophie de cette réforme dont on vient de parler, c'est-à-dire à la fois de rendre les peines plus efficaces, c'est-à-dire qu'elles soient effectivement appliquées, mais que ces peines puissent être peut-être modulées ou pas forcément centrées uniquement sur l'incarcération. Qu'est-ce que vous en pensez et est-ce qu'on peut aller contre ?
Alors, c'est difficile d'aller contre. Il y a une bonne idée, me semble-t-il, qui devrait être retenue. C'est l'idée de décider que la libération conditionnelle à 2/3 ou à 3/4 de peine sera automatique, sauf avis contraire du juge d'application des peines. Ça permettra d'en finir avec les sorties de prison sans aucun contrôle et aucun suivi, qui sont quand même majoritairement la règle aujourd'hui. L'autre chose, c'est qu'il y a des intentions qui visent à faire en sorte que le tribunal correctionnel précise lui-même les modalités d'application de la peine, et il y a une intention qui vise à ce que les peines soient immédiatement exécutées. Là, ce sont des intentions qui sont assez intéressantes, attirantes, mais dans le même temps, le chantier de réflexion sur la justice auquel a fait allusion Mme Guilbeault, eh bien ce chantier avait dit « mais en l'état, nous sommes incapables de faire ça ». Et si on doit incarcérer immédiatement tous ceux pour lesquels le tribunal n'a pas ordonné l'arrestation immédiate lors du prononcé de la peine, ça voudra dire qu'il y aura une explosion du nombre de détenus. C'est ce qu'avait raconté le chantier, ce qu'avait expliqué le chantier sur la justice. Nous avons porté, lors de la réforme Taubira, le nombre de conseillers d'insertion, de gens qui travaillent dans les services de probation a été porté de 4 à 5 000. Si l'on veut mettre ces réformes en place, il faudrait sans doute doubler le nombre. Et peut-être ponctionner un peu le nombre de nouvelles places de prison à construire. Donc, il y a un risque incontestable dans le deuxième volet de ces annonces que nous ne connaissons pas dans le détail aujourd'hui.
Voilà, on les connaîtra mieux, sans doute, évidemment, cet après-midi, lorsqu'elles auront été annoncées par le chef de l'État. Merci beaucoup, Dominique Raimbourg, en tout cas, d'avoir accepté d'être en ligne avec nous. On évoque l'information sociale maintenant avec ce nouvel appel à la grève à Air France pour les salaires. Grève pour les salaires, ce sera le 23 mars. Nous sommes un mois après la précédente grève qui avait conduit la compagnie, on s'en souvient, à annuler un quart des vols. Les organisations de pilotes, d'hôtesses, de stewards, de personnel au sol vont en août se réunir le 15 mars prochain pour peut-être encore, Hakim Kasmi, durcir le mouvement.
Oui, et les syndicats qui sont tous sur la même longueur d'onde, ce qui n'a pas toujours été le cas chez Air France, font désormais front commun. Ils réclament une hausse des salaires de 6%, des salaires gelés depuis 2011, période depuis laquelle Air France a engagé différents plans d'économie et de restructuration. 10 000 postes ont été supprimés, notamment au sol, qui ont payé le plus lourd tribut, et pour ceux qui sont restés, la compagnie leur a demandé d'être plus productifs de 20% en moyenne, ce qui s'est traduit par des temps d'escale raccourcis sur certaines destinations long courrier, mais aussi par la réduction des équipages, notamment des PNC avec au moins une hôtesse ou un steward en moins sur de nombreux vols aussi bien en long courrier qu'en moyen courrier. Des efforts qui ne se justifient plus forcément, selon les syndicats, au vu des bénéfices engrangés par Air France. Le groupe, qui est revenu dans le vert depuis 2 ans, a réalisé l'année dernière 1,5 milliard d'euros de bénéfices. De son côté, la direction refuse d'augmenter les salaires, pour l'instant du moins. Elle indique que les pilotes et les PNC ont bien eu des augmentations individuelles de 10% en moyenne, notamment avec l'ancienneté ou encore le changement de type d'appareil. Enfin, elle estime que la situation de l'entreprise reste encore fragile face aux compagnies du Golfe qui restent très productives, mais face aux mouvements de grève à répétition qui lui font perdre de l'argent et qui écornent son image en France et à l'international, un geste de la direction n'est pas à exclure dans les prochains jours.
Hakim Kasmi, merci. Dans le domaine industriel, rien ne semble plus aller à TF1. Après Canal+, le groupe Free s'apprêterait lui aussi à couper le signal de la chaîne. Free, comme Canal+, et comme Orange d'ailleurs, estime que la rémunération qui est demandée par TF1 pour diffuser ses programmes est maintenant infondée. Le groupe TF1 réclame en effet une vingtaine de millions d'euros, par exemple, pour que Free diffuse ses chaînes. Depuis que les clients de CanalSat n'ont plus accès à ces chaînes, les audiences de TF1 sont à la baisse assez nettement. Est-ce que c'est le début de la fin de la télé TF1 dominante, Abdellah Khalidrissi ?
Les négociations duraient depuis 8 mois et c'est face à ce que Canal+ qualifie d'intransigeance que le groupe a décidé d'arrêter la semaine dernière la diffusion des chaînes de TF1. TF1 demanderait plusieurs dizaines de millions d'euros à Canal+. Plus, qui de son côté refuse de payer pour pouvoir diffuser à ses abonnés des contenus disponibles gratuitement sur d'autres canaux. C'est une décision audacieuse car Canal+ prend le risque de perdre des abonnés. C'est d'ailleurs pour cette raison que TF1 se pensait en position de force. Le groupe TF1 estimant sans doute que l'adhésion et la fidélité des téléspectateurs à ses programmes et à sa marque lui donnaient un avantage. Mais la réalité est bien différente. Depuis la coupure du signal des chaînes de TF1, les abonnés de Canal+ semblent surtout aller voir chez les concurrents. Depuis vendredi soir, le journal de 20h de France 2 réunit chaque soir plus de téléspectateurs que TF1, ce qui était jusqu'ici rarissime. Idem pour certains programmes de divertissement de TF1 qui ont perdu des centaines de milliers de téléspectateurs. Et la situation pourrait s'aggraver pour TF1 car d'autres distributeurs menacent désormais de couper la diffusion. Depuis hier, le fournisseur d'accès à Internet Free affiche à ses abonnés un message indiquant qu'il est contraint d'interrompre la diffusion des chaînes du groupe. Orange pourrait à son tour suivre cet exemple. Les deux fournisseurs d'accès à Internet se voient réclamer, comme Canal+, des millions d'euros par TF1 pour diffuser ces chaînes. Ce qui était d'abord un bras de fer se transforme en partie d'échec au détriment de TF1 qui dénonce une entente entre Canal+ et les fournisseurs d'accès à Internet. Il semble surtout que TF1 n'ait pas suffisamment pris la mesure de la transformation du paysage audiovisuel français et du changement de paradigme dans la consommation des contenus.
12h47, les Italiens peuvent maintenant se livrer à un sport dont on dit qu'ils sont friands, celui des pronostics électoraux. Après le scrutin de dimanche, le pays est plongé dans l'incertitude à la recherche d'un gouvernement. La lutte est engagée en fait entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue qui revendique chacun le pouvoir, mais exclut pour l'instant une alliance eurosceptiques entre eux. On est en ligne avec Mathilde Imberti. Bonjour.
Bonjour à tous.
Et l'incertitude qui ne semble pas vraiment inquiéter les Italiens outre mesure.
Non, je dirais que cette incertitude effectivement inquiète plus à l'étranger qu'en Italie. On est dans un système parlementaire hein, purement. Les jeux d'alliance, de tractation entre partis, de déclaration des uns des autres, le fait de se tourner vers le président de la République in fine pour qu'il trouve la formule magique, en quelque sorte, c'est le schéma classique ici. Alors néanmoins, après ces élections, l'Italie est face à un chamboulement, une réorganisation du panorama politique, un nouveau bipolarisme peut-être, analysent les experts, la gauche avec les cinq états au centre de ce nouveau pôle et la droite avec la Ligue au milieu. Toutes les cartes sont rebattues. À gauche, la chute de Matteo Renzi, la crise que traverse le Parti démocrate ouvre la voie à un scénario possible. L'alliance entre les cinq étoiles et une partie de ce Parti démocrate pour former un gouvernement. C'est le premier scénario mis en avant dans la presse italienne ce matin. Deuxième scénario, la droite au pouvoir avec Matteo Salvini, président du Conseil. Mais là, la presse ne voit pas bien qui pourrait rejoindre cette coalition pour créer une majorité absolue.
En tout cas, on en a au moins pour un mois, si je comprends bien, avant que le gouvernement ne soit vraiment fixé, enfin qu'il y ait un début de commencement de gouvernement.
C'est ça, au moins, puisque le Parlement nouveau se réunit le 23 mars. On va élire les présidents de la Chambre des députés, du Sénat. Le président de la République pourra commencer les consultations officielles. On verra quelle équipe peut être constituée. Effectivement, pas de gouvernement avant le mois d'avril, voire un peu plus loin.
Mathilde Imberti, merci beaucoup. En direct de Rome, en tout cas, le vice-président de la Commission affirme qu'Emmanuel Macron et Angela Merkel ont une grande responsabilité maintenant pour relancer l'Europe qui est une nouvelle fois mise à l'épreuve par la montée des partis populistes et d'extrême droite, donc en Italie. On voit partout en Europe qu'on attend les projets franco-allemands, affirme Franz Timmermans. Le nettoyage ethnique des musulmans Rohingyas se poursuit en Birmanie. Campagne de terreur, de famine organisée destinée à les faire fuir vers le Bangladesh. C'est une nouvelle dénonciation ce matin, Nadine Epstein, par le Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies.
Et l'ONU avait déjà dénoncé les violences faites aux Rohingyas et accusé l'armée birmane de commettre un nettoyage ethnique. Il y a environ un mois, l'ambassadeur de l'Union Européenne en Birmanie, qui s'est rendu dans l'état de Rakhine, a publié des photos de dizaines de villages Rohingyas rasés au bulldozer. L'ONG Human Rights Watch ajoute, elle, qu'au moins 55 villages ont été détruits, tandis que dans son rapport annuel, Amnesty International estime que l'exode de 650 000 hommes, femmes et enfants de Birmanie vers le Bangladesh résulte, je cite, de la campagne de nettoyage ethnique menée contre les Rohingyas. Et l'ONG de conclure, cet épisode restera dans l'histoire commune comme un exemple supplémentaire de la calamiteuse impuissance de la communauté internationale à résoudre les situations propices aux pires atrocités de masse. Fermez les guillemets. À minima, le monde entier représenté aux Nations Unies à New York a adopté à la fin de l'année 2017 une résolution demandant l'arrêt de l'opération militaire contre la minorité musulmane des Rohingyas. La Chine, la Russie et la Syrie ont, avec 7 autres pays, voté contre. L'ONU appelait aussi le gouvernement à donner une citoyenneté à part entière aux Rohingyas, qui, privés de nationalité birmane, constituent la plus grande population apatride au monde. Les autorités birmanes soutiennent, elles, que leur opération militaire vise à déloger des rebelles qui avaient attaqué plusieurs postes de police le 25 août dernier. Mais après des mois de démenti, l'armée a été obligée de reconnaître que des soldats et des villageois bouddhistes avaient tué de sang-froid des Rohingyas. Enfin, plusieurs femmes, prix Nobel de la paix, se sont adressées à Aung San Suu Kyi, elle aussi prix Nobel de la paix et aujourd'hui chef de gouvernement, pour tenter de la convaincre de ne pas se taire et d'intervenir pour que cesse ce que dénonce encore aujourd'hui le secrétaire général adjoint de l'ONU, les violences systématiques et généralisées contre les Rohingyas.
Nadine Epstein, merci. À l'instant, on apprend que les deux Corées conviennent de tenir un sommet à leurs frontières à la fin du mois d'avril et aussi d'ouvrir une ligne de communication d'urgence entre les deux dirigeants. C'est ce qu'annonce en tout cas un émissaire sud-coréen qui a rencontré ce matin le leader nord-coréen Kim Jong-un à Pyongyang, un sommet qui aurait lieu dans le village de Panmunjom, au milieu donc de cette zone démilitarisée qui sépare la Corée du Nord de la Corée du Sud pour la fin avril. En Chine, l'Assemblée nationale populaire examine en ce moment même les amendements à la Constitution qui vont permettre au président Xi Jinping, s'ils sont votés évidemment, ce qui ne fait pas de doute sans doute, de se maintenir au pouvoir sans limite de temps. On en parle avec Jean-Luc Domenac qui est spécialiste de la Chine. Bonjour.
Bonjour.
Finalement, Xi Jinping, président à vie, comme on dit, est-ce que ça va changer quelque chose au régime ?
Ça va pas tellement changer, au moins dans un premier temps. On voit bien comment son élection s'explique, hein. Il tient l'appareil, il a une image mondiale, et enfin et surtout, la Chine va bien. La Chine va bien, 6-7% de croissance annuelle. C'est vraiment formidable et c'est ça finalement qui explique sa réussite.
Pourquoi est-ce si important pour lui de se faire ainsi conforter ? Est-ce qu'il ne peut pas le faire sans que ce soit constitutionnellement inscrit ? Il y a des menaces ? Est-ce qu'il y a des menaces pour lui qu'il juge nécessaire de l'inscrire dans la Constitution ?
Les Chinois sont comme tout le monde. Ils jugent en fonction des résultats. Or, les résultats sont bons, c'est tout. Et vous savez, quand on parle aux Chinois, ils vous disent « bon, ça marche ». Mais si ça venait à ne pas marcher, alors ça commencerait à barder.
L'obtention, donc, dans quelques jours, par le président Xi Jinping de ce mandat illimité suscite quand même des critiques. C'est ce qu'on dit en tout cas au sein de la société, loin de l'unanimité qui est vantée par la propagande. Il y en a qui s'expriment en Chine, qui expriment leur opposition en privé dans des interviews à la presse étrangère ou encore sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'état de l'opinion ? Vous dites que l'opinion, quand ça va, ça va, mais peut-être pas forcément toujours.
Écoutez, d'abord, vous voulez rencontrer, maintenant vous pouvez les rencontrer dans le TGV, hein ? Et c'est ce que je fais moi. Et alors l'avis général est que ça marche bien et autant aussi longtemps que ça marchera bien, eh bien on sera d'accord. Et quand ça marchera moins bien, eh bien on ne sera plus d'accord. Et alors là ça bardera, parce que vous savez que la Chine est capable de longs sommeils, de longues disciplines, mais en même temps, on l'a vu dans les décennies récentes, eh bien, quand ça saute, ça saute.
Jean-Luc Domenac, là, quand vous dites ça, quand ça marche, de quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on parle uniquement du taux de croissance ?
Ah oui, l'économie, l'augmentation du niveau de vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les Chinois sont comme nous, quoi. Ils regardent d'abord l'état de leur compte en banque, hein, c'est ça. Et puis vous avez 10 à 20 millions de paysans qui crèvent la faim et qui eux voudraient bien arriver dans les banlieues des villes. Donc il y a des vrais problèmes, mais le sentiment est que, quelles que soient les crapuleries des gens qui dirigent, vous savez, dans les provinces, au niveau provincial, c'est pas brillant, et au niveau des petites villes, c'est encore moins brillant, mais malgré cette malhonnêteté généralisée, eh bien, aussi longtemps que l'économie augmente, eh bien, on admet.
Merci beaucoup Jean-Luc Domenac d'avoir accepté d'être en ligne avec nous pour parler donc de cette Assemblée nationale populaire chinoise qui est actuellement réunie à Pékin. La météo, on revient en France, mitigée avec des averses. Les régions méditerranéennes vont retrouver toutefois le soleil. Des maximales qui iront de 8 à 13 degrés en général, parfois 14 dans le sud-ouest, 13 à 16 degrés près de la Méditerranée. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Le prochain journal est à 18h avec Aurélie Kiffer.